Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Elle n'était pas bien mon histoire. Nous allons la débriefer avec vous, Frédéric Chauveau, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. L'ogresse, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, l'ogresse de la Goutte d'Or. Vous pouvez nous dire ce que représente dans l'imagerie populaire le personnage de l'ogre à l'époque ?
Oui, alors le personnage de l'ogre fait partie de ce qu'on appelle l'imaginaire social. Ça surgit en gros dans les années 1840. Ça incarne véritablement, si je puis dire, le mal. Alors, on parlait plutôt des ogres au masculin, capables de tuer, d'étriper, de dépecer toute une série de personnes. Et puis là, évidemment, il y a un transfert autour d'un personnage féminin, ce qui est assez rare. Et donc, évidemment, ça devient un personnage particulièrement diabolique.
Deux mots sur les journaux, parce que quand même, c'est un vrai sujet dans cette affaire. On s'aperçoit que pour eux, je l'ai dit, tout est bon dans le cochon. C'est-à-dire qu'ils se régalent de tous les rebondissements, y compris s'il s'agit de dire exactement l'inverse de ce qu'ils ont dit cinq semaines plus tôt.
Oui, voilà, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a évidemment donc des journaux qui ont une ligne éditoriale un petit peu différente, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder les périodiques qui ont des illustrations. Et là, l'image est tout à fait éclairante, parce qu'on voit bien que parfois, les dessins présentés ou les gravures sont véritablement donc à charge. On peut voir notamment des dessins de femmes représentant une foule hostile contre Jeanne Weber. Et puis d'autres fois, au contraire, on la présente plutôt comme une victime en but, si je puis dire, à la malveillance de toutes sortes de son entourage et d'autres personnalités.
Donc on a des magazines à l'époque qui rendent compte des affaires criminelles et qui n'ont strictement aucune morale professionnelle et pas d'autre morale que de profiter des rebondissements.
Ah, pas tous. Non, disons, il y a un certain nombre de périodiques, pour ne pas les citer, comme par exemple les journaux à grand tirage, ils sont quatre à dominer la scène médiatique, mais celui qui va cultiver plus particulièrement le scandale, c'est le journal Le Matin. Mettre en avant des affaires un petit peu donc scabreuses, les traiter comme ça de façon donc exagérée ou amplifiée pour faire vendre, là c'est plutôt celui-ci. Mais là vous savez aussi bien que moi, les journaux ont considéré que dès les années donc 1869, en fait, le beau crime à la une était en fait un argument éditorial et ça faisait vendre. Le crime de Pantin que vous avez évoqué il n'y a pas très longtemps, bon, le périodique Le Petit Journal gagne finalement donc plus de 10 000 lecteurs chaque fois que l'on découvre un cadavre.
Mmh. Alors on est d'accord que depuis le début, on aurait dû se poser la question de sa santé mentale. Parce que, si on réfléchit bien, ce sont des crimes sans aucun mobile, sans aucune rationalité. Pourquoi est-ce qu'on étrangle ces gamins-là ? Eh ben, on ne sait pas. Quel est l'état, Frédéric Chauveau, de la psychiatrie en France au début du XXe siècle ?
Alors, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, elle a quand même progressé. Et ce qui est étonnant dans le récit que vous avez fait, c'est que Léon-Henri Toineau, le grand médecin légiste, la sommité du domaine, est aussi donc l'auteur d'un ouvrage sur les perversions, notamment les perversions sexuelles. Auprès de ses étudiants, ses cours ont été publiés. Il va en quelque sorte présenter une sorte de typologie. Il en distingue sept grandes catégories entre les masochistes, les fétichistes et puis j'en passe. Donc lui, comme médecin légiste, praticien du corps, avait aussi, si je puis dire, entre les mains, eh bien tous les éléments pour essayer de proposer donc un examen mental de Jeanne Weber. Mais il est passé à côté. Toineau, c'est aussi celui, par exemple, qui a inventé, qui a défini ce qu'on appelle le crime sadique. Et donc là, évidemment, c'est étonnant au niveau du personnage, confronté donc à Jeanne Weber, il y a de sa part une sorte de cécité.
On dirait qu'il ment à dessein. Enfin, j'ai l'impression que ça laisse, c'est-à-dire que est-ce qu'il pouvait être en empathie avec cette femme, en pitié avec cette femme, au point de ne pas dire la vérité ?
Non, je pense pas, en tout cas pour les deux premières expertises. Là, évidemment, il est considéré encore une fois comme l'étoile montante de la médecine légale. Normalement, il est amené à prendre la succession de son maître Paul Brouardel qui meurt le 23 juillet 1906. Donc celui-ci n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et les experts de cette époque-là, que ce soit Brouardel ou que ce soit Alexandre Lacassagne, considère que finalement donc les experts ont raison. Ils sont malmenés par la justice, maltraités par les journalistes et la presse, mais ils se sont pas trompés. Donc pour Pour Toineau, je crois qu'il a, dans sa première expertise, alors d'abord, il a exhumé une partie des corps, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, au bout d'un certain nombre de jours, de semaines...
Oui, ils sont dégradés.
Oui, ils sont particulièrement donc dégradés. Et je crois qu'au début, il a été honnête. Mais après ça, évidemment, pris dans une spirale, parce qu'il n'était pas tout seul. Il ne faut pas oublier qu'il s'était adjoint notamment Jules Soquet, qui était aussi donc médecin légiste, qui faisait des expertises à la morgue de Paris. Et Jules Soquet, dans l'affaire de Clichy, c'est une affaire un petit peu sombre d'étranglement, lui, il y voit simplement donc la trace d'une émotion particulièrement forte qui aurait provoqué le décès. Donc qu'il soit en quelque sorte l'adjoint dans cette expertise de Toineau, c'est tout à fait révélateur.
Alors on voit aussi comment la diphtérie et la méningite en bon dos à l'époque, ce sont les maladies mortelles du début du XXe siècle.
Oui, oui, tout à fait. Là, ce sont des maladies donc mortelles. Alors, il est vrai aussi, il ne faut pas l'oublier, la mortalité donc infantile, alors pas forcément donc à la naissance, mais un petit peu plus tardivement, est assez importante quand même. Si on fait la comparaison à la même époque avec d'autres pays, par exemple comme la Suède, on a un taux de mortalité donc en France est quasiment donc 6 fois supérieur. Donc le fait qu'un enfant en bas âge puisse comme ça donc dépérir ou mourir brutalement par une maladie, alors on n'est pas toujours donc très précis dans la classification, dans l'appellation, finalement, ça semble aller un petit peu droit. C'est triste, on met ça sur le compte de la fatalité, mais on l'accepte.
Ouais, c'est sans doute la raison d'ailleurs pour laquelle les parents mettent toujours du temps à s'inquiéter. C'est-à-dire qu'un enfant meurt, au fond, ça ne les surprend pas. Il est d'usage qu'on ait 1, 2 ou 3 enfants qui meurent quand on est une maman.
Tout à fait. C'est un petit peu l'usage, donc ce qui explique peut-être une sorte de résignation, sous-entendu. On ne va pas trop s'attacher à sa progéniture avant un certain âge, parce que le risque de trépas est assez important. Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce qui est quand même assez étonnant, c'est les témoignages. Parce que Weber a quand même 3 frères, et ces 3 frères, évidemment, donc n'accordent pas, si je peux dire, de place au doute, donnant le trépas à leurs propres enfants. Ouais. Ça, c'est quand même assez étonnant au niveau des témoignages.
Jeanne Weber, elle tient une place à part dans le crime au début du XXe siècle. Elle a laissé une trace, à votre sens, ou d'autres affaires criminelles ont effacé son histoire. Ça n'est pas la plus connue des histoires de l'époque, à mon sens.
Non, c'est pas la plus connue, mais elle a quand même laissé une trace très importante dans l'imaginaire collectif, parce que d'abord, c'est un crime de femme. Or, oui. les femmes, globalement, bon, c'est à peu près 14% du nombre de criminels, donc c'est assez faible. Et puis ensuite, il y a le mode opératoire. Le fait qu'une femme, à cette époque-là, au début du XXe siècle, fait passer de vie à trépas avec ses propres mains, donc des enfants, là, ça semble absolument donc épouvantable. Et puis, après, notamment dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre de crimes moins connus, où ce seront donc des mères pas tout à fait infanticides, mais qui vont tuer donc leurs enfants qui sont déjà âgés de 3, 4 ou 7 ans, on les appellera, on les taxera aussi d'ogresse. Mmh. Et à ce moment-là, pour l'opinion publique, il n'y a aucune excuse. Mmh. C'est un crime absolument donc épouvantable. Donc évidemment, donc chacun s'attend à ce que ce soit la sanction la plus extrême qui puisse être prononcée par le jury de la cour d'assises.
Vous connaissiez l'expression « crétinoïde » ?
Non, moi je...
J'adore.
Ah oui, j'avais vu que Lombroso, mais c'était une traduction française, en disant à partir de la photo, bon ben Jeanne Weber appartient à une famille de crétins.
Oui. Voilà.
Donc là, mais évidemment ça fait pas assez savant, et donc évidemment après il a fallu donc, si je peux dire, enrober, enjoliver un petit peu donc l'expression pour lui donner une terminologie savante.
Comme d'habitude, j'ai adoré parler avec vous, Frédéric Chauveau. Et je précise, parce que les auditeurs doivent le savoir, je ne vous envoie pas mes questions à l'avance, parce que je sais que vous saurez y répondre.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.